Voilà, ils ont un look qui va encore plaire à ma mère. Et ils vont venir maintenant, en direct dans la salle, vous chanter le dernier tube. Je vous signale que The Cure, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Pour la première fois, en direct, sur un plateau de télévision. The Cure.
Les images du passage chez Michel Drucker en 1986, ça vous renvoie à quel moment, quelle époque, Chloé Delhomme ?
Oh, moi, j'étais fan, je suis toujours, hein, donc ça me renvoie à l'époque où j'étais adolescente. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont en robe à fleurs. Et j'avais pas souvenir, et pourtant je les suivais beaucoup à l'époque, de ce passage en robe à fleurs chez Drucker. C'est bizarre, ils étaient habituellement en corbac. Hein. Je suis un peu déstabilisée.
Et vous, Sakinam Sab, vous connaissiez Robert Smith en robe à fleurs ?
Alors non, mais je me suis demandé si je n'avais pas vu cet extrait, alors que ça me paraît tellement surréaliste, Robert Smith chantant Boys Don't Cry chez Michel Drucker. En fait, il y a un côté petite maison dans la prairie, et je pense que c'est un grand romantique, Robert Smith, et ce qu'on ne sait pas beaucoup. Et moi, ça me rappelle ce que j'écoutais dans ma chambre d'ado, et c'est génial, parce que moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est toujours d'actualité. Et a priori, en plus, il faut encore des concerts, donc moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy à écouter en ce moment encore.
Et c'était votre période un peu gothique, Chloé Delhomme ?
Oui, tout à fait. C'était ma période totalement gothique, mais elle a duré super longtemps. J'ai dû arrêter à la trentaine, moi. Donc, il restait des vestiges. Mais c'est marrant, j'ai pas de souvenir de ce passage en Liberty, là, parce qu'ils ont des petits tissus Liberty totalement de l'époque. Cette vidéo est adorable. Merci beaucoup, Aurélie.
Ceux qui n'aiment ça, vous étiez plutôt le punk adolescente.
Je c'est marrant parce que je suis très fière aujourd'hui d'aller avoir le même Pantone de rouge à lèvres que Robert Smith.
Et pour la mode, vous étiez plutôt robe à fleurs ou gothique ?
Non, non, là, par contre, non, il fallait pas me la... Non, non, c'était pas possible. À l'époque, oui, j'étais plus, je dirais pas gothique, mais jean, voilà, un bon vieux jean à garder très longtemps. Et puis, des clous, des chaînes, enfin, ce qu'on fait quand on est ado et on pense que c'est vraiment génial, quoi.
Ou jusqu'à 30 ans.
Oui, mais il y avait moins de clous. C'était surtout les têtes de mort. Moi, j'avais des bagues et des colliers à non plus finir de tête de mort. Mais bon, en vieillissant maintenant, on se calme à peine, puisque je suis en manteau dalmatien de Cruella. Donc, je suis. Non, c'est important de se déguiser au quotidien, je trouve.
Venue ici pour vous, parce que moi je suis fière de vous, et je veux pas qu'il y en ait une qui regarde les pieds, ou vous avez de quoi relever la tête et être fière. Nous on est là pour ça. Donc, d'accord ? Promis, hein ? Ça c'est important, si j'en vois une après le défilé, je vous tue. Donc, vous sortez.
Après tu iras en prison, ça vous
manque. Après je reviendrai vous voir.
Thank you.
Il est 23h et les mots réinventent des mondes. Un nouveau mot, c'est une nouvelle façon d'exister. Chloé Delhomme lance le mot « sororité » et attend de voir la déflagration. Elle écrit, comme elle dit, depuis sa seconde partie de vie, pour dire qu'elle ne s'y attendait pas vraiment, finalement, à voir de ses yeux, de son vivant, cette révolution. Le pouvoir changeait de camp. Mais c'est le propre du vivant de créer la surprise. Elle écrit « Mes bien chères sœurs », c'est une adresse pour tenter qu'il n'y ait plus aucune différence entre le dire et le vécu, entre ce qu'on veut et ce qui advient. Les femmes regagnent du terrain. Chloé Delhomme a un programme vaste mais précis, modifier le langage pour modifier le réel. Elle remet au centre le mot sororité, elle cherche des alliés, elle pousse un cri de ralliement. Elle ne veut pas non plus déserter le mot femme, elle l'habite, elle cherche à le faire à plusieurs et puissamment, c'est un appel. Sakine Hamsa, elle, sait qu'un vêtement, ça parle. C'est de la langue aussi, c'est du verbe, ça dit « j'existe ». Travailler un vêtement, c'est toujours travailler une présence, se demander comment on veut être là. À la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, elle propose aux femmes de réfléchir à ça. Qui elles veulent devenir dans le regard des autres. Et là, on peut se réinventer, repartir à zéro, repartir de son corps et par-dessus les cicatrices, raconter autre chose que le passé. On s'actualise avec soi-même. On refuse le vêtement d'hier ou celui imposé. Il n'y a pas d'uniforme. Si l'habitude endort les corps, il faut l'évacuer. Ceci est une adresse. Des nouveaux mots sont en route pour les nouveaux mondes.
Sororité, substantif féminin du latin soror, sœur, en latin médiéval désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais l'a fait sortir de l'enceinte du couvent. Après le XVIe siècle, le mot sororité devient une communauté de femmes ayant une relation des liens, qualité, état de sœur. Hors de la foi et de la famille, une relation, l'état de sœur. Le sang n'y est pour rien si ce n'est le menstruel. Une solidarité, rapport de similitude. Le partage d'une condition en dépit de ses pluriels, hors de toute hiérarchie et même sans droit d'aînesse. Une relation, des liens. Ici, pas de ma matrone, qualité, état de sœur. Un mot plutôt joli, quatre syllabes rondes, souriantes, qui encercle, susurre la possibilité d'une union féministe en milieu naturel. Au XVIe siècle, la langue le permettait. Puis le terme a disparu totalement de l'usage. Ça a duré longtemps. On se demande bien pourquoi.
C'était un extrait de « Mes bien chères sœurs » paru aux éditions du Seuil, dans la voix de Chloé Delhomme. Il y aura Sakine Hamsa en studio, son documentaire « Mode d'évasion » tourné à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, réalisé avec Laurent Chevalier, sera diffusé le 8 avril sur France 3. À la musique, Marjolaine Carlin se prépare à jouer deux morceaux en studio. Son nouvel album s'appelle « Tatou Touta ». Elle sera en concert le 19 avril au Blanc-Ménil, le 29 mai à Angers, le 30 mai à la Chapelle Royale et le 31 mai, c'est le studio de l'Ermitage à Paris pour le lancement du disque. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par des corps enfermés.
Vous habillez quand on sert le repas. Vous êtes habillé. Vous habillez.
Prenez vos. Ouais.
Tiens, d'accord.
Prenez vos desserts.
D'accord. Archivina, Nuit Magnétique, 1986.
Bon appétit.
Moi, j'aime beaucoup m'informer, hein, ne serait-ce que par les filles qui reviennent de permission. J'adore leur demander, bien au contraire, il y a des filles qui osent pas nous dire « je pars en permission » de peur de frustrer un peu celles qui restent. C'est le contraire, moi, je trouve que dès qu'elles sont sorties, qu'elles sont rentrées, c'est la première chose que je leur demande. Alors, comment est la mode, la longueur des robes, la couleur, tout ce qui peut se passer au dehors, les magasins, si ça a changé, s'il y en a même qui sont un peu de mon quartier, je leur demande s'il n'y a pas des choses de changer.
Na, 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 na
Sakinamsa, c'est une archive de 1986, mais déjà les nouvelles du dehors, ça passe par la mode, par la façon dont on s'habille, la longueur de la jupe, de la robe. Qu'est-ce que vous apportez quand vous arrivez dans la maison d'arrêt, Sakinamsa ?
On n'imagine pas, ça me touche beaucoup d'entendre cette femme parler avec tellement de simplicité sur cette carte postale qu'elle a envie d'avoir du dehors, avec comment est la mode, comment est le vêtement, qui paraît tellement superficiel. Moi, je m'en suis rendu compte en y allant que c'est pas si superficiel que ça, que c'est vraiment un acte de profondeur, c'est un acte de résistance pour les femmes. Et je me suis aussi rendu compte que c'était aussi un acte de se réapproprier une forme d'indépendance et puis une forme peut-être de possible par rapport à demain. Et elles vont pour la plupart sortir, hein. Moi je vais en maison d'arrêt et donc il est important en tous les cas. Moi j'étais très portée par, ça m'avait touchée en tous les cas quand je l'avais lu, hein, le film n'est pas du tout autour de ça, mais Surveiller et punir de Foucault m'avait beaucoup marqué et j'ai pris vraiment profondément conscience de l'importance de nous qui sommes dehors de s'occuper de cette insertion de ces femmes et ces hommes quand ils vont venir avec nous, parce que ils vont, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux vont venir avec nous, et je trouve que l'objet culturel à travers la mode, ça peut être à travers un bouquin, ça peut être à travers d'un groupe, de la musique, ben l'objet culturel a une importance fondamentale pour ces femmes et ces hommes.
Et pourquoi c'est important, Sakinamsa, de vous présenter en racontant qui vous êtes? Parce que dans le film Mode d'évasion, ça commence par ça, quand vous arrivez, vous dites, mais moi, justement, il n'y avait pas de livre chez moi. Quand j'avais 14 ans, il n'y avait rien, j'aurais pu faire autre chose si je n'avais pas rencontré un livre, une exposition, un film. Pourquoi c'est important de dire d'où vous venez ?
C'est important pour moi parce que je crois qu'on a tous quelque chose de commun, on a une histoire en commun. Vous et moi, je suis sûre qu'on a beaucoup d'histoires en commun. Et je trouve qu'en tant que femme, en arrivant là, c'était important de leur dire que voilà, on était aussi sœurs quelque part et qu'on pouvait avoir des liens communs. Et moi, c'était une expérimentation, hein, mais qui est partie à partir de mon histoire personnelle, qui est qu'effectivement, moi aujourd'hui, je dis que la culture a changé ma vie. La première fois que j'ai découvert un bouquin, que j'ai commencé à comprendre un bouquin, il y a eu un départ. Et je pense que parler d'évasion, le film s'appelle Mode d'évasion, et je pense que la culture est le premier mode d'évasion. Et ça, c'était vraiment formidable.
Et depuis le début de votre travail, Sakinamsa, vous vous intéressez beaucoup aux invisibles, en tout cas à la visibilité de corps qu'on a peut-être... qu'on ne voit plus, en travaillant avec des femmes qui ne sont pas forcément celles qui défilent normalement, en travaillant dans des maisons de retraite, là en travaillant en prison. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire de ces corps invisibles ?
Parce que ces histoires ont quelque chose en commun avec nous, et surtout j'avais ce sentiment d'une profonde comment dirais-je, on se trompe, j'avais ce sentiment de me tromper énormément, que de m'afficher juste créatrice de mode, de présenter mes collections au carrousel, au Bristol, au crayon et au palais de Tokyo, et puis de rentrer chez moi et de me dire voilà, c'est bon, c'est cool, et cette coolitude là est intéressante aussi, mais elle ne suffit pas, et je trouve qu'elle ne suffit plus. Moi, il y a avant-hier, je rentrais chez moi, j'allais vers mon magasin, j'habite à Oberkampf, dans un quartier bobo, et mon magasin est dans le Marais, donc tout aussi bobo, et j'ai pas fait 15 minutes de marche que j'ai rencontré 5 personnes qui étaient en train de dormir par terre, et il y a une véritable interrogation profonde à soi-même. Il y a une espèce d'inconfort moral à vivre tout ça. Et moi, je pense que la mode, la féminité, c'est quelque chose de... je trouve que le désir, c'est quelque chose d'important. Moi, il y a une phrase qui me touche beaucoup, c'est « les désirs mènent à l'illumination ». Et je trouve que la beauté, c'est quelque chose qui transforme. Donc la mode fait partie de cet outil de beauté et ne doit pas être réservé qu'à ceux qui sont dehors ou qui ont les moyens. Quand vous parlez d'invisible, j'aime beaucoup ce mot, je trouve que la mode, la beauté fait partie de l'insertion. Et moi, je parle souvent de cette notion d'insertion par le beau. Et c'est très important pour ceux qui, comme moi, sont un peu bobos, habitant à Oberkampf, que ceux qui ne le sont pas, parce que ça crée une espèce de bien vivre ensemble au final. Et cette alchimie-là m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'être, même pour faire une collection, j'avais mon atelier à Barbès, j'avais besoin d'être bousculée par l'autre, par celui qui est différent, par celui qui hurle, par celui qui crie fort et qui n'est pas forcément lisse. Et je trouve que en allant en prison, ça me touche beaucoup cette notion de rêve que tu travailles, parce que moi je crois au rêve.
Parce que Chloé Delos me racontait juste avant l'émission que en prison, vous allez rencontrer des hommes et vous travaillez sur le rêve.
Oui, enfin, j'ai fait un one-shot par Pascal Cassagno qui s'occupe de la prison de Poissy et pour les détenus, les activités culturelles. Et je suis allée collecter les rêves. Je collecte les rêves cette année, les rêves des habitants de Grenoble par le biais du magasin des Horizons, le Knack de là-bas. Et aussi, du coup, je suis allée à Poissy collecter les rêves des prisonniers de la prison de Poissy, enfin certains.
Et le rêve, ça qui n'aime
et
ça.
Et justement, par rapport au rêve, ça me touche beaucoup parce que moi, je suis née aux Comores et les murs de cette maison en tôle de ma grand-mère étaient en ardoise. Et ma grand-mère, elle nous disait de dessiner nos rêves et on se levait le matin. Elle nous racontait la signification de nos rêves et elle nous disait, j'étais très touchée par les aborigènes d'Australie sur cette notion de dream, enfin, cette espèce de rêve. On ne sait pas si ce que nous sommes en train de vivre là, vous et moi, est-ce que c'est vraiment la réalité. Et ma grand-mère nous avait tellement transportés qu'au gamin, on se demandait si finalement ce qui était réel n'était pas finalement le rêve et ce que nous vivions endormis n'était pas la réalité. Mais en tous les cas, par rapport à la prison, j'ai demandé à ces femmes, mais quels sont vos rêves? C'est une des premières accroches et d'énergie forte que j'ai eue avec elles. Ça a été très dur parce que ça a été très violent entre elles et moi à ce moment-là, parce qu'elles m'en ont voulu de leur parler de rêves, parce que pour elles, elles se considéraient finies pour certaines. Et moi, je crois que même quand on est terminé, le rêve, c'est essentiel. Et elles m'ont confié leurs rêves. Et leur rêve, c'était incroyable. C'était d'être mannequin, de faire un défilé de mode. Et moi, ça correspondait à une époque où j'en avais marre de faire des défilés. Je trouvais que c'était parfois pathétique, une perte d'argent, une perte d'énergie. On se retrouvait tous à se faire des au premier rang. Enfin, j'en avais un peu ras-le-bol de tout ça. J'avais l'impression que c'était sympa, c'était vraiment charmant. Mais voilà, j'avais besoin en tout cas d'être bousculée autrement. Et ces femmes, j'y allais pour qu'elles me bousculent et pas pour qu'elles me ramènent un défilé de mode. Mais bon, je me suis retrouvée ce qui me rendait heureuse et me bouleversait, c'était de leur faire plaisir et au final d'aller jusqu'au bout de leur rêve à elles. Ça a transformé ma vie parce que j'ai découvert d'autres choses qui m'ont forcément bousculée.
On en parlera tout à l'heure, Chloé Delhomme, mais dans Mes bien chères sœurs, vous écrivez « J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoir cocotte, les esthètes de la penderie, les suicidaires de cartes bleues hors solde, celles qui parfois ne se lèvent que pour pouvoir s'habiller ». Pour vous, comme pour Sakine Hamsa, les vêtements, ça parle.
Ça raconte. C'est capital dans ma vie, les habits. Oui, c'est une façon de réenchanter le quotidien. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est une maîtrise du personnage de fiction qu'on veut être et qu'on arrive à être. Et puis, c'est une façon de réinvestir et d'habiter le quotidien différemment. Je trouve ça super important. Et j'ai un rapport aussi à l'esthétique en général qui est assez développé. Donc, j'ai besoin, moi, de m'entourer de belles choses et d'emporter si possible.
Par exemple, ce matin, comment vous avez choisi cette veste dalmatienne?
Ce matin, je me suis dit que mon côté Cruella de Vil devait prendre l'air. Donc, j'ai pris ma peau de dalmatien. Et pour le reste, je suis sobrement tout en noir.
Mais Marjolaine Carlin, qui va chanter tout à l'heure, a repéré quelques colliers.
Oui. J'ai des bijoux qui ont été réalisés par Yann Larue. Donc j'ai un clito déesse, donc c'est une sorte de petit clitoris pour montrer la force vitale de la déesse mère et de cet organe si important. Et j'ai un Lexomil en argent aussi.
Au cas où.
Je me rappelle d'un short en jean, un mini short en jean, qui ne voulait pas rentrer. Et parce que du coup, donc, les surveillants disaient à ma famille que c'était trop court, voilà, et que c'était indécent. Et du coup, donc, j'avais un jour, j'avais coupé un jean à moi, et du coup, je me suis fait un short Et voilà. Et la preuve que tout ça est absurde, parce que je me baladais avec le short en jean en promenade, même dans les couloirs. Des fois, je mettais un collant en dessous et j'ai pas eu de réflexion en me disant oui, vous avez pas le droit de porter ça. Mais c'est pas rentré dans le quota du linge. Donc voilà. Petite anecdote.
Et c'est quoi le quota du linge ?
Eh ben, en fait, on a le droit juste à 7 pantalons et 14 t-shirts. Donc on a le droit à rien d'autre.
Et on voilà. peut pas dépasser. Ouais,
on peut pas dépasser. Ça veut dire qu'on est obligé de sortir du linge pour nous faire rentrer du linge. Si on sort pas de linge par loi, on n'a pas d'autre linge qui peut rentrer.
Et comme il y a donc, certaines choses qu'ils acceptent pas, donc des fois, ta famille qu'ils ont va te ramener 15 voilà. hauts, mais les 15
donc,
ne pas
Donc il y en a qui
n'ont
pas de famille, ils sont obligés de mettre les vêtements de la détention, donc les pantalons larges qu'ils leur donnent. Des fois, c'est même pas leur taille, c'est du XXL, ouais.
C'est
du L.
C'est vraiment des sacs poubelles.
Donc c'est pour ça qu'ils les coupent et qu'ils font leurs petites choses dessus, quoi.
Un extrait de Mode d'évasion, Sakine Hamza. Tout à l'heure, vous décriviez leur réaction forte quand vous demandez aux femmes leurs rêves. C'est vrai que parfois, c'est un rapport pas évident. Vous leur demandez souvent de se taire parce que ça s'excite, de s'aimer, de pas se moquer d'elles-mêmes. Enfin, c'est pas tout le temps facile, ce chemin de se réapproprier son corps, la séduction avant le défilé. Comment vous inventez ce rapport avec elles pour être à la fois exigeant?
Moi, je crois que d'abord, c'est la dignité et le respect, et puis de se mettre dans un espèce de terrain de confiance. Alors, je ne suis pas dupe quand je vais en prison. Il y en a qui ont fait des choses hyper compliquées. Il y en a beaucoup moins graves, et je suis pas là pour ça. J'y vais vraiment pour essayer d'apprendre d'elles et essayer de faire en sorte que quand elles vont sortir, elles reprennent confiance finalement vers l'autre, tout simplement. Et je suis juste styliste et j'ai un outil qui est complètement superficiel, qui est le vêtement, mais qui est carrément important parce qu'il participe à la séduction. Il peut participer aussi à prendre confiance en soi-même. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était comment cet objet aussi superficiel pouvait être un espèce d'outil pour elle. Par rapport alors à la séduction entre elles, comment se passe, enfin je me disais mais quelle vie sexuelle elles ont, comment, quelle forme de séduction elles mettent en place. Il y en a qui sont là depuis longtemps, donc elles m'ont donné plein de, elles ont leur truc, voilà, c'est super. Et il y a eu vraiment un espèce d'un vrai terrain de confiance, mais aussi un vrai terrain de découverte. Par exemple, moi j'ai appris des choses grâce à elles, qui étaient par exemple que il y en avait qui faisait esprit de faire des conneries, de rentrer en prison parce que elle se sentait plus adaptée à la vie du dehors. C'est-à-dire que nous, on peut penser que c'est un rêve d'être dehors, mais elle, non, ça peut être un cauchemar d'être dehors. Et moi, ça m'a vachement bousculée quand je suis rentrée chez moi. Je me suis dit waouh quoi. Et en fait, non. Il y en a qui disent voilà, on est bien ici parce que on a à manger, on a à boire et puis on n'a pas à se prendre la tête non plus. Sur comment s'habiller. C'est-à-dire que, par exemple, le vêtement social, c'est-à-dire ce vêtement où, pour certaines femmes, ben, elles doivent mettre des stilettos toute la journée. Enfin, il y en a qui n'en peuvent plus, qui ont envie de vivre autrement. Il y en a qui vont au boulot et qui doivent s'habiller de telle manière. Moi, je connais des entreprises hein, où, quand on n'est pas habillé de telle manière, on vous dit rien, mais dans l'ascenseur, on vous regarde de bas en haut. Et là, le tout est dit. Et ces femmes, elles parlent vraiment de cette violence qu'elles rencontrent dehors. Et puis d'autres, effectivement, qui ne sont absolument pas d'accord. Il y a une femme, vous verrez, qui dit « Mais moi, je me rappelle même plus du visage de mon enfant. » Elle a 6 enfants. Et voilà, mes gosses, je m'en souviens plus du visage. Moi, ça a été une vraie baffe, une vraie gifle que d'entendre une femme dire « Mais moi, je me rappelle plus des visages. » C'est atroce, cette espèce de se retrouver dans cette espèce d'amnésie. Et je crois qu'il y a une véritable interrogation sur... finalement, moi, je me suis dit... Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, c'est intéressant aussi de poser le curseur sur... ben voilà, c'est pas l'autre. Il faut pas marginaliser.
Ouais, elle te va comme un gant. Merci.
Pour montrer tes choses. Mais en fait, je suis hyper serrée dedans, je comprends pas.
Tu viens m'aider, tu moi,
c'est pas gros steak, évidemment.
Oui. D'accord.
Il n'y a pas d'épingle.
L'idée incroyable.
C'est trop belle.
Je me sens pas.
Tu sens pas belle?
Ben non, c'est pas ça, mais je sais pas.
Tu veux que je te montre ce que ça donne? Bien.
Non, je suis pas bien.
Tu veux pas te voir?
Ben je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me va pas, la robe.
Viens, je te montre. Il faut que tu vois.
En même temps, c'est pas moi qui choisis.
Voilà.
Mais moi, j'écoute ce que Sakina me dit.
Tu te sens pas bien dedans?
Ben, je trouve que ça me va pas. Mais alors, ça veut pas dire que je la porterai pas ou quoi. C'est moi qui suis parano.
Très bien, mais c'est pas son.
Je suis objective. Je suis pas objective avec moi-même.
Tu sens que c'est pas ton genre?
Non, pas du tout. Mais je me trouve pas belle dedans. Mais ça n'a. Après, c'est pas.
Tu trouves qu'elle est pas belle?
La robe?
Non, elle.
Si, elle est.
Dedans.
Elle est très bien. Elle est très
bien. Moi, je le trouve.
Avec la coupe et tout.
Ouais. Non mais je suis
dans la géométrie.
Non mais c'est parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue normale et tout. Je pense que c'est ça.
Non, mais
je dois faire un blocage. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Parce que dehors je m'habille comme ça en fait et je pense que ça me fait bizarre de me voir avec une robe, un truc serré, enfin je suis Non mais ouais, tu vois, mais c'est comme si c'était pas moi en fait, tu sais, on me dit, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est le choc. Non mais vraiment, mais même tout à l'heure quand elle était en train de me lisser les cheveux et tout, j'étais hyper choquée.
Ah oui, non,
c'est vrai qu'elle est belle, hein.
C'est le moment des essayages, Sakina Msa, et c'est aussi un moment où on s'est déshabitué de soi dans le dehors, ce que vous disiez tout à l'heure, certains ont oublié des visages, mais certaines ont oublié comment elles étaient elles-mêmes.
Leur corps.
Absolument.
Et alors c'est marrant parce que là, elle est dans une robe, elle n'arrivait pas à rentrer.
En plus, elle est assez sublime.
Et la fille aussi. La fille, elle est extraordinaire, tout simplement. Et enfin, moi, j'ai appris par exemple cette notion de la robe capote, cette robe où on ne peut plus bouger. Oui, c'est vrai que cette espèce de miroir. Et puis, il y en a certaines qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Il y en a certaines qui n'avaient pas mis de chaussures à talons. Parce que vous savez, il y a cette notion de cantine. Quand on arrive, on a la cantine, mais il y a des choses qu'on n'a plus et qu'on laisse en arrivant, etc. Et là, tout d'un coup, elle était dans autre chose. Et sur cette notion qu'elles ont, enfin ce regard qu'elles ont d'elles-mêmes, moi je ne sais pas, parce que je me suis vraiment posé cette question en étant là, parce qu'à un moment donné elles oublient la caméra et je me suis demandé mais à quel moment est-ce que je suis pas dans le faux personnellement, parce qu'il y a toujours cette espèce de, on est dans une espèce de sas d'émerveillement, mais quand on va partir, vous verrez un petit peu vers la fin du film, c'est vachement violent quoi. Mais bon, en tous les cas, ce moment-là, ce moment des essayages, il y a cette notion de, je sais pas si vous voyez une fille qui tombe à un moment donné, et j'avais ce sentiment qu'elle avait le vertige. Et est-ce que c'est pas une forme de vertige, ma présence là-bas, positif ou négatif, je n'en sais rien, je ne le sais pas moi-même, mais il y a le vertige des corps.
Et Chloé Delhomme parlait de personnages de fiction, en tout cas de ce qu'on peut se créer avec les vêtements, et c'est vrai qu'à travers le film, on voit des personnages émerger, qu'elles se créent, et la métamorphose est très, très forte.
Mais moi, c'est ce truc aussi de notre adolescence devant le miroir, où on s'y croit, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je mettais mon perfecto ou je sais pas quoi, je m'y croyais grave.
Il y en a une qui dit « Laissez-moi y croire 5 minutes, après je retourne dans ma cellule dégueulasse ».
C'est ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est on y croit.
Marjolaine Carlin a une voix de ralliement. À l'intérieur, on lirait presque « Mes bien chères sœurs » comme le titre du livre de Chloé Delhomme. Son album s'appelle « Tatou Touta ». Il est sorti en numérique, en physique, vous l'aurez entre les mains le 26 avril. Elle chante toujours avec des influences Maloya. Le premier morceau, c'est « Tatou », Marjolaine.
Oui, parce qu'on est en train de parler du vêtement soi-disant superficiel, celui qui est à l'extérieur. Et en fait, là, ça parle de comment ce qu'on porte à l'intérieur Et c'est pour ça que ça s'appelle tatou, c'est un tatouage plutôt à l'intérieur. Et donc je suis Marjolaine Carlin et on est en studio avec Marco Lacaille à la basse, Salvador Douizi à la batterie et les invités bien sûr, Chloé Delhomme et Sakina Emsa. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture et on est ensemble jusqu'à minuit.
Féministe en tout cas, et forcément c'est révolutionnaire quand même, et je le suis. C'est vraiment une affaire qui m'intéresse, cette histoire de féminisme, donc et forcément c'est révolutionnaire parce qu'on n'en est tellement pas encore sorti de cette affaire, donc ouais. Puis je crois quand même là je suis une féministe assez confiante aussi. Je trouve que les femmes ont là, en préparant le livre, à chaque fois qu'on se penche sur l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes, on est quand même surprise par à quel point on a spécialement enduré, quoi. Je vois beaucoup de catégories de gens qui se plaignent, beaucoup du traitement historique qui leur est infligé à juste titre, vraiment que d'horreur. Mais putain, les femmes, on a ça en commun quand même partout. On a bien dégusté, quoi. Et je nous trouve quand même vachement en forme après tout ça, quoi. Donc je me dis quand même quel sexe. Puissant et intéressant, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le naturel avec lequel Zbing, on s'est libéré quand même de. Ouais, pas mal. Je trouve qu'on nous reproche souvent d'être lente, de rien comprendre. Moi, je trouve au contraire, quoi. Putain, pas mal, quoi. Et quelle endurance, quoi. Quelle endurance, quelle finesse, quelle intelligence, quel humour, quelle pimpance. Il y a un côté comme ça, quelle pimpance, parce qu'on se plaint peu par rapport à ce qu'on a enduré, je trouve. Et justement, quand je compare aux hommes, comment ils ont tendance à se plaindre et de nous reparler pendant ce qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans. C'est vrai, c'est bien. Hein. Mais putain, nous, on la ramène pas beaucoup. Je trouve que c'est une force. Hey, hey, hey.
C'était la voix de Virginie Despentes. Est-ce que vous aussi, Chloé Delhomme, vous vous dites quel pimpance ? On s'en sort pas si mal ?
Oui, on s'en sort très très bien, même on est très en forme. On est très en forme et la révolution est en marche. Je ne sais pas si maintenant c'est de bon augure de dire en marche comme expression. Mais en tout cas, on est bien parti et l'impunité est en train de tomber et je crois que les choses avancent vraiment. Et c'est vrai qu'on est drôlement endurante.
Et dans Mes bien chères sœurs, Chloé Delhomme, vous dites « Je me range du côté des licornes arc-en-ciel ». C'est quoi comme genre de créature ?
C'est les créatures de LGBTQI, c'est la troisième vague, c'est ceux qui ont pété la binarité et à qui on doit... C'est le mariage pour tous, c'est ça, c'est les licornes arc-en-ciel.
Et vous décrivez les vagues, justement, successives de révolution, de féminisme, et là on en est à la quatrième.
On en est à la quatrième. La troisième, c'était le courant intersectionnel qui venait des années 80 aux États-Unis. Et maintenant, là, on a affaire depuis MeToo à Madame Tout-le-Monde, à la masse qui se bouge, la masse qui n'est pas militante, qui n'était même peut-être pas préparée à se dire féministe, en fait, je pense. Et c'est toutes les générations, c'est beaucoup les jeunes filles, effectivement, qui s'en emparent beaucoup parce que les réseaux sociaux, mais pas que. Et ça, c'est vraiment nouveau, effectivement. Et ça exclut rien. Ça n'exclut pas les autres courants. Ça n'exclut pas les militantes, justement. C'est un grand tout, c'est un grand nous qui s'impose, qui déferle. Et moi, ça me met plutôt de bonne humeur.
Et pourquoi, mes bien chères sœurs, à qui ça s'adresse, ce cri de ralliement ?
Aux amis inconnus. Aux amis inconnus et à peu près... toutes les femmes et leurs alliés qui voudraient bien entendre ce qui se passe en ce moment et qui ont envie de participer avec joie et humour, on va dire.
Ce qui est assez beau, c'est que cette question du féminisme et de l'évolution de sa place dans votre vie, ce que vous décrivez dans le livre, vous la mêlez tout de suite au langage, aux mots et à votre pratique à vous d'écrivaine. Et c'est en effet un moment où les choses qui n'étaient pas nommées le sont, aujourd'hui, et où on invente des mots, et le mot le plus important, c'est sororité, celui qui...
Alors, oui, c'est le mot qu'on va aller chercher, parce que celui-là, sororisation, je l'ai inventé, mais sororité, c'est ce qui est beau, c'est qu'on a des mots qui existent, mais qui étaient abandonnés, et ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et tant qu'on n'avait pas repris ce mot sororité dans l'espace public, eh bien, on pouvait pas se penser communauté de sœurs. Sans le mot, sans le concept, on n'a pas, quoi. Donc, je pense que c'est très important que ça revienne, parce que c'est étonnant de voir la carrière de ce mot par rapport à fraternité, qui est né en même temps du latin.
Pourquoi il a été abandonné, sororité ?
Il a été abandonné parce que je pense que c'est inconcevable pour l'Église qui tenait déjà, quand le mot a été, ce qu'on disait au début de l'émission, le petit extrait sur le XVIe siècle, et puis parce qu'on est dans une société hyper patriarcale où les femmes autonomes, qui se pensent en groupe, qui se pensent... sans avoir besoin du joug masculin, je crois que c'était inaudible pendant longtemps. Et puis aussi, et ça, il n'y a pas que le patriarcat qui est responsable, parce qu'on a un problème de rivalité entre femmes qui est très fort. Et ce problème de rivalité, il peut... Alors, l'éducation y est pour beaucoup, on est d'accord, mais je pense qu'on doit faire un effort chacune aussi, comme une éthique de vie, en fait. De neutraliser toute rivalité possible, d'être dans un pacte de non-agression et dans un pacte implicite de soutien aussi.
Ce qui est étonnant, c'est que vous décrivez la transmission ou la non-transmission de femmes plus âgées envers vous quand vous êtes adolescente, quand vous êtes au collège. Le mot féminisme, il arrive dans la bouche de votre tante, vous êtes en cinquième. Mais il n'a pas forcément il ne veut pas dire ce qu'il veut dire aujourd'hui pour vous.
C'est une insulte, mais en fait, maintenant, ça se calme un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que féministe, c'est gravé sur des tote bags, que obligatoirement, c'est toujours bien perçu dans la bouche de tout le monde. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Moi, c'est vrai que je n'étais pas tellement gâtée au niveau des ascendants. Donc, on m'a traité de féministe comme... parce que je voulais pas rester à ma place, en fait. Parce que le problème c'est un refus de l'assignation de la femme soumise, de la femme. Et c'est toujours un problème de place. Si la sororité a parfois du mal à se mobiliser, je dirais, c'est aussi parce qu'on a un problème de précarité en notre place.
Et les femmes de votre famille, ça voulait dire quoi pour elles, féministes ?
Ça voulait dire que j'allais finir vieille fille et que j'étais une éternelle insatisfaite et que j'étais très très agressive à des endroits qui ne devaient pas l'être. Donc, quand je suis allée chercher la définition dans le dictionnaire, je m'attendais à trouver un trouble mental ou quelque chose de ce genre. Et j'ai été très surprise de voir que pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin, après, c'est dans l'histoire personnelle aussi. Ma mère se faisait frapper, mon père l'a tuée. Il me mettait sur la gueule aussi. Donc, il y avait un rapport à la violence masculine qui était très développé. Et puis après, je crois qu'il y a eu aussi un sentiment d'injustice par rapport à la précarité générale des femmes dans ce pays et au sexisme ambiant et à un petit peu le bon esprit de la gaudriole à la française qui est d'une grande violence et qui, en plus d'être très gras, c'est quand même très violent.
Vous décrivez les représentations dans les années 80, notamment à la télévision et, ou dans les publicités ou en tout cas dans l'environnement social, c'est assez
C'était Coco violent. Boy, c'était Stéphane Collaro, les années 80, dont se construire comme femme quand on a la plémette du mois qu'on regarde en famille. Donc il s'agissait d'une femme qui se dénude sous le regard concupiscent de Jean Roucas. C'était quand même toute une époque. Et c'est difficile de se construire. Et puis dans les années 80, le modèle féminin pour les adultes, c'était la working girl. Mais quand on était une choupette au collège, c'était Samantha Fox. Donc vu que j'avais pas de sein, c'était un peu compliqué, quoi.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait de Mes bien chères sœurs, Chloé Delhomme ? Et vous avez repris, on entendait la voix de Virginie Despentes, une phrase j'écris de chez la pas de chez les moches comme Virginie Despentes, mais
c'était chez les ex-bonasses. Mais on va faire un petit passage qui est un petit peu après. J'écris de chez les connasses qui font du shopping, les adoratrices du vintage, les nostalgiques boudoirs cocottes, les esthètes de la penderie, les suicidaires de cartes bleues hors solde, celles qui parfois ne se lèvent que de pouvoir s'habiller. Celles qui passent pour l'ennemi, qu'elles soient lesbiennes ou pas, dans n'importe quel milieu, un chouïa militant pour cause de sursapage. Que celles qui n'ont jamais subi un concert de djembé en sandales à talons cessent de mentir tout de suite. J'écris de chez les vraiment toutes seules, les orphelines, les nullipares, les célibataires à Paris, celles sans attache ni branche qui dans le réel flottent, qui s'écrivent à la craie, leur vie faite de falaises, qui ne savent pas qui prévenir en cas d'accident. J'écris de chez les sans-famille, celles qui doivent s'inventer chaque jour, de celles qui en rigolent, c'est une question de principe, la faiblesse est toujours une maladie honteuse. J'écris de chez celles qui ont des douleurs menstruelles effroyables, des bouffées de chaleur précoces, et qui n'osent plus s'en plaindre de crainte d'être traitées d'essentialistes, celles qui culpabilisent de ne pas être assez fortes, celles qui ont mis longtemps avant de crever leur trouille, celles qui perçoivent une sœur dans le cœur de chaque transsexuel et admirent leur courage au point de puiser de temps, devenir celle que je voulais, personnage de fiction. J'écris de chez les chieuses, les princesses hystériques, authentiques drama queen, le donjon de la reine des pommes, les tellement meufs que dépassées, trop à l'aise avec leur féminité dans le débat public obsolète, celles qui se paraissent suspectes d'avoir trouvé leur place, celles qui doivent avoir honte d'être des proies faciles, celles qui devraient s'adapter pour ne plus être des cibles, celles qui désormais voient qu'elles sont partout légion, mais ne savent pas tellement, une fois quitté le clavier et l'écran, comment faire pour qu'enfin le réel se modifie.
Chloé Delhomme, vous écrivez aussi « Je vous écris depuis ma seconde partie de vie ». Pourquoi c'est important de dire que c'est de là d'où vous écrivez, que vous avez 45 ans? C'est quoi la particularité de ce moment-là?
La particularité, c'est la femme de 45 ans dans le tissu social et sur le marché, quoi. C'est qu'on a... Alors la seconde partie de vie, c'est aussi parce que c'est dans mon rapport personnel à la mort. Je crois que du coup, il y a eu une urgence à dire les choses clairement, arrêter de faire des tripatouillages stylistiques, donc, que j'adore par ailleurs, mais là, c'était pas le propos. Et aussi parce que là, c'est Camille Laurence qui en parle le mieux généralement, mais c'est vrai qu'il y a un problème de l'invisibilité de la femme de 46 ans qu'on fait Yann Moix récemment ou des choses comme ça, quoi. Et puis parce que moi, ça modifie beaucoup mon rapport au monde aussi. Je suis plus apaisée.
C'est l'âge où on ne perd plus de temps, vous écrivez.
Non, on perd plus de temps parce que la mort se rapproche, parce que du coup, il y a des urgences et puis. Et puis je crois que du coup, il y a aussi une lassitude à jouer à un jeu social ou des choses comme ça. C'est assez générique, comme il y a la crise de la quarante-cinquantaine, on va dire.
Et en même temps, on ne croit plus aux fables de l'antique super-héroïne.
Non.
Qu'est-ce que ça change?
Ça change d'accepter qu'on n'est pas une guerrière. Et que c'est pas grave de pas être une guerrière. et ça veut pas dire qu'on est faible et qu'on n'est pas au niveau. Mais c'est libérateur quelque part, parce que le mythe de la Wonder Woman, on a beaucoup de mal à la tenir, et après c'est douloureux et c'est rabaissant de se dire qu'on n'arrive pas à la tenir. Donc je trouvais que c'était important d'expliquer en tout cas que j'étais debout sans en être une.
Et à part le mot sororité, vous imaginez un nouveau pronom? Vous faites une nouvelle conjugaison? Comment on modifie la langue?
C'est le pronom neutre, c'est l'utilisation du pronom neutre. Ça, c'est pas une invention non plus. C'est Yel, il plus elle, qui donne le pronom neutre. Et je trouve que ça serait une très belle solution. Disons que j'applique souvent la règle de proximité. On peut pas, mais chez moi, le féminin l'emporte sur le masculin quand on est dans des assemblées où il y a peu de garçons. Ce qui m'arrive assez souvent, car j'ai plutôt des lectrices. Et sinon, le pronom Yel me semble assez beau. Et peut-être une façon de dépasser aussi le patriarcat d'une certaine façon, aller vers ce troisième pronom.
Et depuis l'écriture de Mes bien chères sœurs, vous avez trouvé des sœurs ?
Ah, j'en trouve plein. Je fais communauté sans cesse, je fais sororale. C'est très agréable. C'est très agréable de sentir que je prêche pas dans le vide, que c'était déjà là, que j'ai rien, enfin, et que c'est prêt. Surtout que c'est prêt. C'est un mouvement. Non, j'ai très, et puis ça fait un peu cercle de parole aussi. Et ça, c'est très agréable qu'on me confie des choses, que je puisse en confier aussi. C'est pas une promotion de livres entre guillemets habituelle. Quand je vais dans les librairies ou dans les salons, les lectrices que je rencontre, il y a un truc plus intime dans l'échange qui est vraiment chouette, qui est horizontal. Et ça, c'est super plaisant.
Et ce mot femme, vous écrivez, j'ai pas envie de le déserter. Comment vous l'habitez différemment et comment il s'est peut-être élargi dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il raconte?
Bah, disons que ça vient avec l'âge aussi, je suis plus en place. C'est-à-dire que j'avais du mal à prendre la parole, à trouver le droit de dire, en étant juste une femme, cis, blanche, plutôt hétéro, donc normalement qui est pas porteuse des stigmatisations, des souffrances. Et puis avec MeToo, il y a eu une sorte de libération, de droit de dire, bah oui, je parle que de cet endroit-là, où effectivement j'accumule pas les convergences de problèmes, mais en même temps c'est douloureux et fatigant, et d'avoir soudainement la sensation que je pouvais m'exprimer comme ça. Avant, j'avais du mal à la prendre, cette parole, peut-être aussi parce que j'ai pas eu de trauma, enfin je veux dire, j'ai pas été violée, j'ai même pas subi d'avortement, donc je me sentais pas légitime, j'avais pas assez morflé en fait pour pouvoir l'ouvrir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit quand même il y a quand même un petit peu de données sur le CV, j'ai le droit. Mais c'est venu tard. Il y a 10 ans, j'aurais été incapable de prendre cette parole-là.
Et vous écrivez, quand vous parlez de l'adolescence, de la construction, je me suis vraiment construite contre les hommes. À quel moment ça a pu se transformer et se guérir?
Ça s'est guéri à la trentaine seulement, quand je suis sortie avec ma première armoire à glace, parce qu'avant je prenais que des profils de petites crevettes de 12,5 kg, de façon à être sûre que le conjoint ne pouvait pas m'étrangler ou me taper, quoi. C'était hyper chevillé au corps, ça, comme choix. Enfin, on construit après, on s'en rencontre après. Et je crois que vers la trentaine, ça s'est un petit peu, ça s'est un peu apaisé. J'étais moins dans la misandrie, moins dans la peur de l'homme aussi. Mais ça, c'est avec le temps. C'est même pas des expériences particulières, c'est avec le temps. Il y a aussi le fait que comme je me suis prostituée pendant 3 ans, en faisant vraiment, enfin, de la prostitution vraiment freelance dans de bonnes conditions, en faisant exprès, c'était de la prestation de service. J'avais un rapport du coup aux pulsions des clients, et je pense que ça, c'est un peu mon point commun avec Solanas. Je crois que ça développe aussi une forme de misandrie souvent. Donc il fallait peut-être que je prenne de la distance avec tout ça. Donc ça a mis du temps.
Et quand vous racontez l'histoire de votre corps, vous racontez cette histoire-là et des histoires aussi qui éprouvent le corps comme être caissière.
Oui, bah c'était un autre travail que j'avais fait. Ça, c'est vrai qu'on a c'est le fait de fusionner la machine. On n'a plus de corps à soi. Enfin, c'est-à-dire que pendant mes années de prostitution, je quittais mon corps pendant l'acte, un peu comme Annie Hall va fumer sa clope et se balader pendant que c'était une technique que j'avais déjà petite, quand mon père me tapait, je me barrais de mon corps. Et la caisse à Carrefour, c'était super violent, parce qu'en fait, on a le corps est, devient la machine, on est arc-bouté, on est tendu. Et puis surtout, c'est pour ça aussi que j'en étais venue à la prostitution, c'est que j'avais l'impression qu'on m'abîmait pas que le corps, mais qu'on me prenait du temps, qu'on me prenait l'âme, qu'on me grignotait l'esprit de l'intérieur, tout me fatiguait. Il y avait une notion d'aliénation très très vive dans cette expérience-là. Et puis aussi après, en tant que femme, ce qui était étonnant dans cette caisse à Carrefour, c'est que le chef du personnel tenait à ce que nous portions des jupes, accessoirement, évidemment. Il y avait toujours le petit truc en plus.
Et vous écrivez une phrase, au XXIe siècle, l'individu n'est plus du tout ce qu'il était. Parce qu'il y a aussi cette injonction à, sur les réseaux, se raconter parfois, oui. se mettre en fiction, avoir des followers. Et vous dites, exister peut mener très vite au burn-out.
C'est ça,
comment on fait pour échapper à ça?
Ben, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, peut-être on est le minimum syndical et puis on n'a pas, faut pas avoir une existence qui à faire la différence énorme entre l'existence virtuelle, l'existence réelle et même si les deux ont tendance à se mêler, mais je pense que le rapport aux followers est super malsain en fait et du coup on devient déjà qu'on est amené à être tous les auto-entrepreneurs de notre existence. Il y a un côté libéralisme cavalant qui me fait très très peur, moi, là-dedans. Donc, avec parcimonie, ouais.
On va se retourner vers Marjolaine Carlin et ses deux musiciens. Après s'être adressée à mes bien chères sœurs, Marjolaine s'adresse à Madame la Chanson pour le deuxième morceau.
Je ne suis pas entière. Daigneras-tu me ramener entière, daigneras-tu me ramener dans tes ombres et dans ta lumière, dans tes ombres et dans ta lumière, dans tes ombres et dans ta.
Je vais avoir 5 ans et toi tu vas pas avoir 5 ans.
Si je vais avoir 5 ans.
Non. Et moi je vais l'avoir dans pas très longtemps et toi dans très longtemps. Alors tu peux arrêter. Hein.
Moi et dans pas longtemps.
La menteuse. T'es une menteuse. Tu
fais des foutaises. Non, je suis menteuse. Pas menteuse.
Si.
Non.
Chloé Delhomme, Sakine Hamsa, comment vous observez les générations qui arrivent, de jeunes filles qui ont aujourd'hui peut-être 15, 20 ans? Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport à votre génération peut-être?
Bah, elles sont dans le mariage pour tous déjà. Enfin, je veux dire, ça change quand même quelque chose d'important, je pense. Et puis elles se laissent pas faire. Elles se laissent pas faire du tout. Enfin, moi, j'ai cette sensation que c'est une génération qui va bouger là où la mienne n'a pas bougé. Il faut dire aussi, la génération des cadras, on est nulle part, on n'a rien fait. C'est vraiment la génération perdue. Donc c'est, j'ai foi, moi, dans ces petites choupinettes qui arrivent très motivées.
Cuando yo te compro choclo, te invito choclo y después te saludé. ¿Cómo te va? Un pochoclo yo te di y nació nuestra amistad, la amistad que al mundo da la dicha inmensa de vivir. Un pochoclo yo te di y nació nuestra amistad, la amistad que al mundo da la dicha inmensa de vivir.
On sera parti des mots qui inventent des mondes pour poser au centre celui un peu oublié de sororité. Sakine Hamsa, son documentaire Mode d'évasion, réalisé avec Laurent Chevalier, sera diffusé le 8 avril sur France 3. Chloé Delhomme, son nouveau livre s'appelle Mes bien chères sœurs, c'est aux éditions du Seuil. Marjolaine Carlin, son nouvel album s'appelle Tatou Touta. Elle sera en concert le 19 avril au Blanc-Ménil, en mai à Angers à la Chapelle Royale et le 31 mai au studio de l'Ermitage à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Philippe Mercher et Régis Nicolas. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
A brillar a pleno fulgor, a más y mejor. Cuando yo te compa choclo, compo choclo. Cuando yo te compa choclo, compo choclo.